Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. On va consacrer une partie de cette émission à la série Phoenix qui a été doublement primée au Festival de la fiction télé de La Rochelle, mais également au Festival de Luchon, prix de la meilleure série. On va recevoir les deux auteurs, Louis Aubert et Mathieu Bernard, ainsi que le réalisateur Franck Brett et le comédien Léo Legrand, qui seront nos invités exceptionnels dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé également cette semaine consacrés à la maman du bourreau qui débarque mercredi soir sur France 2. À cette occasion, le réalisateur Gabriel Aguillon sera notre invité, accompagné de celle qui a signé le roman Stéphanie Calfon, mais également de l'acteur Xavier Robic. Et puis nos coups de cœur télé consacrés à Léo Mattei. Il a fait son arrivée jeudi dernier dans la série, dans le rôle du commissaire. Et bien c'est Vincent Desagna qui sera notre invité également pour en parler. Et puis coup de cœur télé également sur le documentaire Les Visages de la Guerre qui sera diffusé mercredi à 22h35 sur France 2. Didier Cros, le réalisateur, et Félicie Roblin, la réalisatrice, seront avec nous pour en parler. Et puis en fin d'émission, on parlera humour, on parlera spectacle avec Titoff qui est en tournée partout en France avec son spectacle Showbiz. Et puis Florian Lex également qui est en tournée partout en France avec son spectacle Imparfait. Ils seront tous les deux avec nous en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. On démarre tout de suite avec notre spécial Phoenix.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Phoenix, déjà en ligne sur France.tv depuis vendredi. Et puis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les auteurs qui sont avec nous. Le réalisateur Franck Brett également va nous rejoindre, qui avait réalisé déjà de très beaux téléfilms. Il réalise cette série. Mathieu Bernard, Louis Aubert, deux des auteurs sont là. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une série très engagée déjà.
On parle d'un sujet qui crée de l'engagement. En tout cas, c'est une série qui pousse à l'interrogation et qui pousse à réfléchir sur notre état et sur ce qu'on peut faire pour l'améliorer.
Oui, oui, je crois qu'on peut dire que c'est une série, en tout cas, qui parle de l'engagement, ça c'est sûr. Nous, on est des personnes engagées. Après, justement, on a envie de partager ça et ces questions-là et de les traiter en fiction, c'était vraiment très intéressant pour nous.
Alors on va y retrouver donc des jeunes gens qui, aux quatre coins du continent, ce qui s'appelle le groupe Phoenix, vont se lancer dans le kidnapping d'enfants de hauts dirigeants qui, eux, sont en train de se réunir dans les Alpes pour un forum prétendant lutter contre le réchauffement climatique, mais évidemment, il n'en est à rien. Et pour leur mettre justement ce coup de pression, ils vont kidnapper simultanément leurs enfants pour dénoncer le greenwashing et leur forcer surtout à tenir les promesses qu'ils ont faites de façon publique, évidemment, parce que c'est toujours ça l'enjeu des dirigeants ou des politiques. Qui a eu l'idée, déjà, de base?
Alors, en fait, je vais essayer de la faire courte là-dessus. Il y avait une production qui voulait à un moment parler des mouvements de la jeunesse sans savoir quoi en faire. J'ai eu une discussion, donc moi c'est Mathieu, et j'ai eu une discussion avec Louis. Et on a réfléchi en disant, ces mouvements de la jeunesse, ils parlent d'un désir de radicalité parce qu'ils ont l'impression que rien ne se fait. Et du coup, on s'est dit, on va parler de la radicalité de ces jeunes. Et en parlant, on a enclenché sur le sujet le plus essentiel dans leur avenir, c'est le dérèglement climatique.
Vous êtes trois auteurs, hein? Comment vous êtes répartis un peu les tâches? Est-ce que vous avez écrit par épisode chacun ou est-ce que vous avez vraiment écrit de façon collégiale?
Alors c'est un travail à quatre mains la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a des phases différentes dans l'écriture. La première évidemment c'est de trouver l'idée, la développer les histoires. Donc là c'est vraiment un moment où on était en collaboration avec Mathieu presque tout le temps, où en discutant on trouvait nos histoires, nos idées. Et après on rentre dans une deuxième phase qui est celle des épisodes dialogués, où là, pour le coup, chacun partait avec un épisode, puis après, on les échangeait pour se faire des retours mutuels.
Une fois qu'on est au dialogué, l'important, c'est donc beaucoup les dialogues et que tous nos personnages aient les mêmes champs lexicaux, que ce soit moi qui écris les dialogues ou Louis.
Alors, on va parler de la réalisation, bien sûr, dans un instant avec Franck Brett qui va nous rejoindre. Mais c'est vrai que c'est vraiment tourné à pas mal d'endroits. Ça complique un peu la situation. Est-ce que vous avez eu, en tout cas, à l'écriture, quelques freins là-dessus ou vous êtes un peu permis ce que vous souhaitiez à la base?
L'idée, c'est comme ça qu'on aime écrire, c'est qu'on s'est autorisé beaucoup de choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on écrit, on se renseigne autour de la production, de la chaîne, de voir c'est quoi nos moyens, parce que on peut réduire la voilure ou l'augmenter quand c'est merveilleux, on a plus de moyens. La difficulté, elle est double là-dessus, c'était par rapport au décor. Et on a pensé notre série par ce qu'on appelle dans notre jargon des arènes. Donc on a une arène où il y a tous les jeunes, il y a une arène où il y a tous les parents. Et donc ces arènes doivent se répondre dans le scénario. Et puis il y avait une autre difficulté qui est pour nous très importante dans la série, c'est que les jeunes activistes sont européens. Et ils sont espagnols, ils sont allemands, anglais et français. Et on voulait qu'ils puissent parler dans leur langue organique et que tout ça soit fluide quand même à l'écran. Et ça, c'était un gros travail scénaristique à faire.
Oui, c'est vrai que très tôt, on est parti du postulat que le dérèglement climatique était un problème qui touchait tout le monde et qui s'arrêtait pas aux frontières de la France. Et que du coup, ça nous semblait une évidence qu'il fallait justement englober, voir un peu plus grand, un peu plus large, etc. Donc effectivement, ça a été un challenge. Après, ça reste une fiction, donc il y a évidemment plein de triches. On raconte qu'on est à un endroit alors qu'en fait on est à un autre. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant pour nous de s'interroger sur ce côté méta et au niveau du continent et pas juste au niveau du pays. Et interroger en fait qu'est-ce que ça peut être pour une jeune Allemande, un jeune Anglais, etc. Et trouver les enjeux qui pouvaient les lier à ces questions-là, qui sont pour eux des questions de vie ou de mort.
Alors il y a un très joli casting que vous allez découvrir évidemment dans cette série, Léo Legrand, Marie Colombe, bien sûr on a également Matteo Patel qu'on a vu dans Un si grand soleil, Arnaud Viard, François Berléand, Natacha Linninger et bien d'autres encore. On va continuer à en parler, on va justement demander à Franck dans quelques instants quelles sont les parades qu'on trouve quand on a des actions qui doivent censées se dérouler aux quatre coins de la planète et comment faire pour réduire justement et faire croire, parce que c'est la magie du cinéma et de la télé tout simplement. On en parle avec lui dans un instant, mais on va d'abord écouter à annonce Phoenix, déjà sur France.tv. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bon visionnage.
Et on revient tout de suite avec Franck.
Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Peu importe ce qu'il veut faire de nous, c'est nous qui choisissons.
Vous comptez faire quoi maintenant?
Les quatre plus grosses entreprises du continent, qui sont aussi parmi les principaux émetteurs de CO2.
Et on est de retour avec le réalisateur de Phoenix, donc Franck Brett, qui nous rejoint. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On avait eu l'occasion de te recevoir pour Comme un fils qu'on avait vu à Luchon, avec toi, très très beau téléfilm. Et donc là, c'est une série. Et si je m'abuse, c'est une de tes premières grandes séries.
J'avais déjà travaillé sur Balthazar. J'avais fait 10 épisodes de Balthazar avec Thomas Sisley et une première mini-série l'année dernière qui s'appelle L'Éclipse avec Anne Charrier et Claire Keim. Donc là, c'est ma deuxième mini-série.
Deuxième grande série, puisque là on est effectivement sur une mini-série de 6 x 45 minutes qui vient de sortir, on le disait, sur France.tv depuis vendredi. Alors Franck, on a planté un petit peu le décor avec les auteurs il y a quelques instants, mais il faut dire que cette série est censée se passer un peu aux quatre coins du monde, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de choses qui s'y passent. Comment on arrive à rentrer dans une économie quand on est réalisateur? Parce que quand on n'a pas d'argent, souvent il faut trouver des parades pour arriver à la réalisation, faire illusion finalement, parce qu'on est un métier de magicien quelque part.
C'est, tu l'as très bien dit, c'est exactement un métier de magicien. Donc c'est censé se passer aux quatre coins de l'Europe. Donc on est censé être à Barcelone. On a des scènes à Liverpool, Francfort. Et ça, c'est l'écriture. Après, il y a la réalité du budget. Et du coup, on doit trouver des solutions. Donc à des moments, on va voir quel décor on peut vraiment avoir, à quel endroit on peut vraiment tourner. Et d'autres parties, par exemple, on a un hôtel à Francfort. C'est un hôtel, par exemple, qu'on pouvait tourner en France. Après, on va changer les panneaux de signification en allemand. On va mettre des figurants qui disent quelques mots allemands. Voilà. Oui, c'est des tours de magie. C'est faut faire illusion qu'on est dans certains lieux. Et pour avoir aussi des meilleurs décors en France aussi.
Il y a une mécanique très rythmée, en fait. Hein. Ça va très très vite. Hein. Dès le départ, on voit les kidnappings, justement, de tous les enfants de ses dirigeants. Et c'est vrai qu'on est embarqué dans un tourbillon avec Marie Colombe, avec tout le casting, avec Léo. Et on découvre effectivement cette machination qu'il y a autour. Et puis d'un seul coup, effectivement, aussi le rengagement, finalement. Parce que c'est ça. C'est aussi l'engagement d'une jeune génération aujourd'hui qui est en train de se rebeller contre le réchauffement climatique.
Exactement. Bah, surtout, le premier épisode, c'est une série assez spéciale parce qu'on a énormément de personnages à présenter. En plus, aux quatre coins de l'Europe, en 45 minutes, donc c'est sûr qu'on va aller très vite à gauche, à droite. Il faut montrer les motivations de chacun, essayer d'expliquer un peu qui ils sont à chaque fois, comprendre les relations entre les personnages. Et on a beaucoup de jeunes comédiens et de jeunes rôles. Mais oui, c'est le combat d'une jeune génération qui veut, je vais reprendre par rapport au Phénix, qui veut cramer le monde existant pour faire quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, Franck ?
Absolument tout. C'est moi, c'est un coup de cœur énorme. En tant que réalisateur, j'avais jamais tourné de fiction déjà en autre langue, et ça, c'est hyper attirant. C'est ça se fait très peu en fait. Il y a pas beaucoup de séries qu'on peut citer dans plusieurs langues, et là, donc déjà, il y a ces quatre langues. Déjà en anglais, c'était un rêve que j'avais, que j'ai pu réaliser, et aussi, le sujet, moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, je suis pour l'écologie, et là, j'avais moyen de faire. Un peu changer les choses à travers les images. Et le dernier point, c'est les jeunes comédiens. Moi, c'est un âge que j'adore explorer. Les 18-25 ans, c'est un âge, je trouve, même, je vais élargir un peu les 15-25 ans. C'est un âge qui m'intéresse énormément dans mes projets et dans les comédiens. Comme j'avais pu faire avec les clips, c'est là rentrer encore un peu plus en profondeur avec ils ont des niveaux, des strates sociales un peu différentes. C'était hyper intéressant.
Alors, Franck, quelles ont été les scènes que tu redoutais le plus, peut-être? Qui t'ont donné quelques soirs froides ou quelques nuits blanches?
J'en ai pas redouté, mais j'avais beaucoup de scènes avec beaucoup de comédiens. Ce qui est sur un plateau pour un réalisateur compliqué parce qu'il faut arriver à
dire. Chorégraphier tout ça?
C'est chorégraphié. C'est des scènes à deux personnes, bon, c'est assez facile, on dirige les deux, c'est facile. Là, il y a beaucoup de scènes avec six personnages, dont Cataleya, c'est une comédienne de 6 ans, avec des jeunes comédiens et en plus dans différentes langues. Donc il faut diriger en français. En anglais, il faut parler à tout le monde. Ça se disperse un peu parce qu'on est jeune. Il y a un peu une ambiance colo sur le plateau. Donc il y a toutes ces scènes qui ont été un pur bonheur en même temps. Mais je les redoutais pas. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut recentrer tout le monde. Les scènes les plus compliquées que je n'avais jamais fait, c'était plutôt les scènes d'incendie. Quand il faut courir à travers des incendies, on a utilisé du vrai feu. Attention, on a protégé les arbres. On avait des autorisations. C'est fait dans les règles de l'art. C'était des parcelles de forêt qui étaient censées de toute façon devait être coupé certaines parties, donc on a les autorisations évidemment de tout le monde. On travaille avec les pompiers, l'ONF, voilà, mais il y a une partie un tout petit peu vraie parce que j'ai même appuyé sur du vrai et ensuite rajouté des effets spéciaux, donc il y a une partie de feu qui est vraie. Et ça, c'est des scènes que je n'avais jamais fait en incendie. On a aussi, bon, je peux pas spoiler évidemment pour ceux qui vont regarder, mais il y a pas mal de feu, ouais, quand on tourne à côté des flammes, c'est assez impressionnant.
Est-ce que c'est bouclé à la fin? Ou est-ce qu'on peut imaginer peut-être une saison 2?
Alors cette question, si on l'avait posée aux auteurs, ils auraient dit absolument pas de saison 2. Absolument pas. Elle est écrite avec un début et une fin. Après, qui sait?
On sait jamais.
Voilà.
Bon, eh bien écoute, c'est ce qu'on va découvrir. En attendant, on va découvrir déjà Phénix. Quel est le dernier mot que tu aurais envie de dire aux auditeurs pour qu'ils se précipitent maintenant sur France.tv?
Allez-y, parce que c'est une série vraiment spéciale. Vraiment original, qui sort du lot, et je pense qu'il va vous parler et vous plaire.
Merci beaucoup, Franck.
Avec plaisir.
À bientôt.
Mon mère, elle a plein d'argent.
C'est beaucoup plus important.
C'est à vous que s'adresse notre message. Vous menez notre planète droit dans le mur, mais c'est terminé. Il vous suffit de transférer l'argent et on épargnera vos enfants.
Il est hors de question de négocier avec ces terroristes.
Si on veut récupérer l'argent, faut qu'ils nous prennent au sérieux.
Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde.
Phénix. la série Phénomène sur France.tv.
Allez, on continue notre spécial Phoenix avec Léo Legrand qui nous a rejoint. Bonjour Léo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue le rôle de Mathias. Alors, on a planté un peu le décor, effectivement, avec Franck et les scénaristes il y a quelques instants. On parle effectivement d'un collectif, le groupe Phoenix, qui va kidnapper des enfants de dirigeants pour tenter de faire dénoncer leur greenwashing et surtout les forcer à tenir leurs promesses. C'est une série engagée, pour le coup, écologiquement. Léo, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce projet déjà ?
Moi, c'est vraiment le pitch et puis cette logline et le fait que ce soit un projet engagé. C'est-à-dire que le projet d'avoir des militants qui décident de faire une action, un coup de poing en kidnappant ses enfants de patrons de grandes entreprises polluantes, c'est déjà un pitch quand on le voit, qui nous dit « Oh mon Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est une idée qui pourrait popper dans à peu près n'importe quelle tête. » Avec plaisir, quoi. Et je trouvais ça bizarre que personne même n'y ait pensé avant de faire un scénario comme ça. Et puis ensuite, en ayant reçu le scénario, en ayant discuté avec Franck, voilà, moi je suis tombé tout de suite amoureux du projet, amoureux du scénario, et puis amoureux de la vision de Franck, voilà, on était très d'accord.
Alors Mathias, c'est le frère du personnage de Marie-Colombe, alors qui lui va être, effectivement, son parcours va être un peu semé d'embûches pour rejoindre après un peu tous ses amis, à tel point que sa sœur va en être très inquiète. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mathias s'est changé de roue de voiture.
Mathias s'est changé une roue de voiture et apparemment c'est kidnappé des gens aussi. Mais c'est un...
quelques petits soucis mécaniques, quoi.
C'est ça, et puis c'est une route qui est semée d'embûches parce que non seulement on va avoir des soucis mécaniques, mais on va avoir un souci personnel aussi.
Cette série, elle va crescendo au fur et à mesure des choses. On plante vraiment sur le premier épisode tous les personnages, le kidnapping, les dirigeants qui apprennent le kidnapping de leur enfant aussi. Et tout ça a un sens, mine de rien, parce qu'on essaye de comprendre, c'est ça qui est bien, il y a un point de vue dans la série où on comprend un peu quand même les différents points de vue et les protagonistes.
Oui, c'est vrai, c'est une série chorale, et puis on a en fait la chance de pouvoir avoir développé effectivement chacune des personnalités de chaque personnage avec le lac de flashback qui arrive effectivement à chaque fois, à chaque début d'épisode. C'est ce qui permet de nous attacher à tout le monde.
Comment tu le définirais, Mathias ?
Engagé, sûr de lui, il se sent peut-être un peu plus intelligent que lui qu'il n'est, en tout cas un peu plus malin que ce qu'il ne croit. Il est rassembleur.
Rassurant, je dirais même, par rapport aux autres du groupe.
Ouais, c'est vrai qu'il est rassurant. Bah, il est rassurant, oui, parce qu'il a besoin de l'être, quoi, pour mettre son plan en action.
Une scène qui t'a peut-être un peu plus marqué, ou qui a été pénible à tourner, ou peut-être au contraire qui a été drôle?
Bah, la scène dans le premier épisode, effectivement, avec où c'était vraiment notre premier genre de tournage, où on s'est retrouvé avec le personnage du détective à devoir se battre dans un champ de blé, qui est, voilà, au milieu d'un changement de roue, comme ça, perdu dans un champ. C'était une entrée en matière assez sportive, quoi.
C'était le premier jour de tournage, ça, justement, l'histoire de la crevaison.
Alors, il me semble que c'était le premier ou le deuxième, mais c'était vraiment dans les premiers jours de tournage. Ouais.
Si tu devras garder un souvenir de ce tournage, un souvenir de Phoenix. Si on te le demande dans 5 ans, par exemple, lequel tu diras ?
C'est une bonne question. J'ai tellement de souvenirs sur ce tournage. C'était tellement une espèce de bulle, un peu au moment suspendu, comme ça, au-dessus de tout, parce qu'on s'est vraiment, personne n'habitait là où on était. Donc c'était vraiment une espèce de colonie de vacances avec toute l'équipe qui était là, tout comme ça, en permanence, dans une station de ski perdue à la montagne, avec un restaurant qui a pu ouvrir. Je pense que le premier dîner, c'était vraiment assez drôle. On a organisé avec Jules Poirier, on s'est organisé une petite raclette comme ça le premier soir de tournage pour avoir un peu tout le monde et pour pouvoir discuter. Et quand ça s'est mis à parler 5 langues différentes dans ce dîner, on s'est dit ouais, ça va être une expérience humaine exceptionnelle.
C'est ce qu'on disait justement avec les scénaristes et Franck, hein, il y a vraiment plusieurs nationalités. Il a voulu aller chercher aussi des personnages qui ont vraiment se parler, qui ont vraiment cette langue pour que ça soit le plus véridique possible, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et puis ben, c'est censé se passer aux quatre coins du monde, mais il a fallu trouver aussi des parades dans une économie de plus en plus compliquée pour la fiction. Et franchement, c'est très chouette. Moi, je vous conseille de découvrir Phoenix sur France.tv déjà. Merci beaucoup Léo.
Ouais, merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et on se retrouve dans une poignée de minutes. On parle de la maman du bourreau, des visages de la guerre et de Léo Mattei dans quelques instants.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
La mélodie dans la tête, j'ai la tête pleine de rêves et mes rêves sont mes références à moi. Accroché au BPM, le sourire au bout des lèvres, je vois la foule en effervescence. Plus de questions dans ma tête. Mes rêves se répètent, toute la nuit je t'attends, je profite des ondes avec l'émotion dans les veines, le parfum et mes rêves sont mes références à moi. J'aimerais que tu te rappelles que tu m'as donné des ailes, et mes ailes sont mon existence, ma voix près de tes poèmes, loin des problèmes. Laisse-moi aller sans réfléchir, on s'aime. Tes courbes ont su m'envoûter, ta douceur peut m'emballer, même si c'est momentané. Je veux qu'on parte quand même. Et moi, sans toi, je fais quoi, je deviens quoi, y'a plus que ça. Et toi, sans moi, tu fais quoi, on s'en va, y'a plus que ça.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré à la maman du bourreau qui sera diffusé mercredi soir à 21h05 sur France 2, librement inspiré de l'ouvrage Je suis la maman du bourreau de David Lehello et mise en scène pour la partie film par Gabriel Aguillon qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Et co-écrit, Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Et co-scénariste, j'allais présenter Stéphanie Calfon. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et puis justement un des héros de ce film, Xavier Robic, que l'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Merci d'être là tous les trois pour nous parler d'un sujet plus que jamais d'actualité. Comment aujourd'hui, effectivement, la réalité a pu rejoindre autant la fiction. C'est assez dingue ce qui est en train de se passer sur ce film, Gabriel.
C'est fou parce qu'avec l'histoire de l'abbé Pierre, maintenant, ça donne encore un nouvel éclairage sur le film. Et pourtant, on sait que pendant qu'on se parle, il y a 3 enfants agressés par heure. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Oui, c'est bien d'en parler.
Alors, Xavier, ce qui est bien, c'est qu'avec ton rôle, la parole est à la victime un peu. Et enfin, on va la croire, puisqu'on retrouve Gabriel de Miremont, qui est incarné brillamment par Marie-Christine Barrault, qui est absolument incroyable. Son fils est prêtre, elle va évidemment jamais imaginer ce qui se passe depuis 30 ans. Et effectivement, elle va comprendre petit à petit, mais c'est un long chemin pour elle, parce que c'est aussi un chemin de résilience qu'elle fait, avant d'arriver à accepter ce que son fils a fait et rencontrer cette victime que tu es, Xavier, dans le film. Comment on réagit quand un scénario comme ça nous tombe dessus ?
On a extrêmement peur, on pense qu'on va pas y arriver, c'est un rôle un peu casse-gueule, on sait pas trop, on a peur de trop en faire ou de pas en faire assez. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai beaucoup écouté de podcasts sur des hommes victimes d'agressions sexuelles, pas forcément que de pédophilie, hein, mais des hommes violés ou ce genre de choses. Et après j'ai voulu être libre, c'est-à-dire j'ai travaillé en amont mon texte pour le connaître au cordeau et arriver sur le plateau et être à la disposition de Gabriel pour qu'il puisse m'emmener là où il voulait aller. En fait, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Le mec pourrait s'effondrer toutes les 5 minutes ou au contraire être complètement détaché et en parler comme d'une recette de cuisine tellement qu'il a enfoui ou qu'il s'est carapaté. Il y a 1000 façons de le faire. Donc moi, je voulais juste être libre et laisser Gabriel me guider là où il voulait.
Confiance aveugle. Stéphanie, là, on est sur l'adaptation effectivement d'un livre. On le disait, mais vous avez écrit tous les deux, pour le coup. Comment vous êtes un peu répartis les tâches ensemble.
D'abord, on a beaucoup aimé ce livre qui a une profondeur et une voilà qui traite de ce sujet de manière très subtile. Mais ce qui nous a intéressé, c'était de. En fait, il y a un vrai enjeu en termes de dramaturgie, c'est-à-dire qu'on est face à un bourreau et on ne peut pas travailler la sympathie et l'empathie du bourreau comme si justement il n'était pas un bourreau. Donc, il a fallu résoudre cette chose-là et on l'a résolu assez vite en se disant au fond c'est avant tout le portrait d'une mère. Et puis au fur et à mesure qu'on l'a écrit de manière très fluide, on a un dialogue, une affinité, Gabriel et moi, dans l'écriture qui fait qu'on se comprend très vite et on ressent les choses de la même manière. Quand on rentrait dans l'écriture, on s'est rendu compte qu'au fond, c'était un film pas seulement sur la difficulté de parler, mais aussi sur la difficulté d'entendre. Et je crois que c'est ça qui fait que ce film n'est pas seulement un film sur les victimes et une mère qui découvre l'inaffrontable et les victimes de violences sexuelles. C'est aussi le parcours de tout un système de gens qui se retrouvent contraints d'entendre parce qu'il y a un moment où il faut et ils ne peuvent plus faire machine arrière. Et je crois que c'est cette chose-là que Gabriel a superbement, mais vraiment superbement mis en scène et que chaque comédien a profondément ressenti, en tout cas c'est ce qui me semble être le cas en voyant le film, ressenti au fond de lui qu'il y avait un moment où on ne pouvait plus se taire et que c'est ça que le film raconte, cet endroit, cette fiction qui est aussi une fraction et une effraction dans la conscience de chacun.
C'est bien dit, merci Stéphanie. Gabriel, le choix de Laurence Tucker avec sa bouille d'ange, quand on connaît l'homme, qui est d'une gentillesse extrême et qui aujourd'hui on comprend pourquoi elle est pensionnaire de la Comédie Française avec la prestation de haut vol qu'il nous offre dans ce film, quel meilleur choix aurait pu être fait que celui-là?
Je crois que c'est le meilleur choix, c'était mon premier choix et c'est mon troisième film avec Laurence Tucker. Donc en plus de son génie d'acteur, il y a une complicité entre nous, une confiance que j'ai eue avec tout le monde sur ce film, parce qu'avec tout le monde, j'ai fait plusieurs films déjà, avec Marie-Christine, avec Xavier, avec Sabine Autepin. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup... Et je crois que pour ce film, avec le sujet difficile que c'était, ça me rassurait de me retrouver avec des grands acteurs, mais aussi des acteurs avec qui j'étais en confiance, avec qui j'avais déjà tourné, et je savais qu'il n'y aurait que le travail, quoi, qu'il n'y aurait rien d'autre à régler.
Est-ce qu'il y a eu des discussions avec David, justement, qui a écrit l'ouvrage? Est-ce que vous avez, pu discuter avec lui? Est-ce que vous lui avez montré un peu le scénario une fois qu'il a été écrit?
On l'a écrit de notre côté, et on lui a montré le scénario, et il a été très bien, et je crois qu'il a vu le film, il était très content du film, enfin voilà. On l'a écrit nous deux, quoi. On n'a pas travaillé avec lui.
Quelles ont été les scènes les plus compliquées pour toi, Xavier?
Toutes. Vraiment, toutes. Il n'y a pas une scène légère où...
La première confrontation avec Marie-Christine Barrault, elle est waouh.
Ah ouais. Non, il n'y a pas... C'était... Non, elles étaient toutes compliquées.
On ressort comment d'un tournage comme ça?
Bah, heureux quand même, parce que sur le plateau, la scène est dure, mais en dehors du plateau, on rigole. Et c'est d'autant plus jouissif de faire quelque chose d'horrible avec la scène de confrontation avec Laurence Tucker et Marie-Christine Barrault, et on coupe, et Laurence Tucker, c'est pas le dernier à déconner. Donc,
heureusement, faut décompresser, là.
Mais je pense que moi, on m'a toujours dit, c'est les films les plus durs où on se marre le plus sur le plateau, finalement.
Il paraît que c'est sur les comédies qu'on rigole le moins.
Bah ouais.
Et ben. Je peux témoigner de ça, qu'on peut qu'on rigole moins sur une comédie. Ouais. J'en ai fait quelques-unes et sur une comédie, c'est très tendu en fait. Ou alors on risque de fou rire sur une comédie. Ça, c'est très angoissant, le fou rire.
Oui, parce que quand ça part, on sait pas quand c'est que ça s'arrête, c'est ça le souci.
Il est arrivé d'avoir des tournages qui s'arrêtaient presque une heure à cause d'un fou rire. Alors que sur La Maman du Bourreau, ça risquait pas. Donc,
non, on prend moins de risques, effectivement, parce qu'on va écouter la bande-annonce, on va vous plonger un peu dans l'atmosphère de ce film nécessaire, encore une fois, on va le dire, mercredi à 21h05 sur France 2, et on revient juste après avec vous, on continue à en parler.
Déjà disponible sur France.tv.
C'est maman, tu as vu le journal?
Un prêtre pédophile au sein d'une des églises du coin.
Je ne compte pas me taire.
Comment vous osez venir chez moi?
Dégoûtez tous!
Qui vous a fait ça?
J'ai besoin de l'entendre.
C'est votre fils, madame.
C'est un prédateur sexuel, il faut l'arrêter.
Alors c'est vrai? Je le prenais pour le meilleur des hommes.
C'est vraiment ce que tu veux, maman? Déclencher contre moi une chasse à l'homme?
C'est insupportable. Demande pardon!
Elle lui a donné la vie, sans savoir qu'il allait détruire celle des autres. La Maman du Bourreau, sur notre plateforme, et mercredi soir à 21h10 sur France 2.
Allez, spécial La Maman du Bourreau, c'est donc mercredi sur France 2. Gabriel Aguillon, le réalisateur, Stéphanie Calfon, la co-scénariste, est avec nous. Xavier Robic également, qui est l'un des acteurs du film. On le disait, un film dur, nécessaire. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif justement d'en avoir fait un film qui soit vu, de libérer aussi la parole peut-être de victimes?
Absolument, libérer la parole et traiter du silence, de ce silence de plomb, de chape qui est incompréhensible, qui règne sur ces crimes pédophiles. Enfin, c'est un silence opaque, de mystérieux. Enfin, donc c'est ce mystère-là que j'avais envie de percer et de mettre à jour.
Xavier, comment on appréhende des scènes avec Marie-Christine Barrault, dont peut-être ta génération de comédiens a pu, pas idolâtrer, mais admirer le travail des décennies durant, parce que c'est tellement une grande actrice, elle est tellement incroyable.
C'était la deuxième fois que je travaillais avec Marie-Christine, donc je suis arrivé un peu en confiance, entre guillemets. Je peux être impressionné par des acteurs que je connais pas, mais quand je travaille avec eux, je me
mets... Ça va mieux.
Enfin, je nous considère comme collègues de travail. Je suis d'autant plus en confiance que je me dis, avec ce genre de personnes, il suffit juste, j'ai qu'à les regarder, à les écouter, j'ai qu'à leur répondre et ça devrait bien se passer. Ils sont tellement talentueux, donc je suis pas plus inquiet que ça, finalement.
Pareil, Stéphanie, quand on voit peut-être les images, les rushs qui arrivent de ce qu'on écrit, interprété par des comédiens pareils.
C'est très émouvant. D'abord, j'ai mis un petit pied sur le tournage pendant 2 jours et j'ai vu travailler Marie-Christine Barrault et Laurent Stocker, qui sont des Stradivarius. J'ai vu ce que c'est que d'être dans la nuance, que d'avoir l'émotion qui affleure tout à coup, de pouvoir pleurer, s'arrêter un instant parce que l'émotion de la scène les a transpercés. Et j'ai vu des acteurs qui étaient capables de jouer une note très spéciale qui était cet amour, cette histoire d'amour magnifique entre cette mère et ce fils, et qui faisait que ça n'expliquait pas tout, mais ça leur permettait de résister en fait à tout ce qui était en train de se produire autour d'eux et au chaos que cette vérité qui affleurait venait faire crever dans leur territoire et dans leur trajectoire.
Alors justement, Sophie, on disait, pour libérer la parole, j'espère qu'effectivement il va y avoir un débat derrière, que ça va pouvoir justement discuter, libérer des paroles, c'est quand même l'objectif premier. Il y a un casting incroyable autour, on peut citer quand même Sabine Hautepin, on peut citer Nicky Marbeau également, qui sont formidables. Il y a toute une pléiade de comédiens qui gravitent autour de ce trio là, qui est très beau.
J'aime tous les acteurs du film, franchement je trouve qu'ils sont, c'est tous des premiers rôles, même s'ils ont une seule scène. L'acteur qui fait l'évêque, l'acteur qui fait le curé, tout ça, c'est des gens formidables avec qui j'ai déjà beaucoup tourné aussi, et qui c'est-à-dire que le film est très enrichi par la qualité de tout le casting, je pense. Ça a été une joie de les avoir et de les retrouver.
Eh bien écoutez, on espère vous retrouver en tout cas très vite. Je suis la maman du bourreau, c'est le téléfilm à ne pas rater. C'est mercredi à 21h05 sur France 2. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, en tout cas pour en parler. Je vous invite voilà, à aller découvrir ce film. Il n'y a pas de scène extrêmement choc, il y a beaucoup de suggestions, c'est réalisé très finement, c'est joué vraiment impeccablement bien. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à y aller le voir. Voilà, n'ayez pas d'a priori, mais allez le voir et voilà, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré au documentaire Les Visages de la Guerre, que vous découvrirez mercredi sur France 2 à 22h35 dans le cadre d'une programmation exceptionnelle en ce mois de février lié aux presque 4 ans de la guerre en Ukraine. À cette occasion, le réalisateur Didier Cros et la productrice Félicie Roblin sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Les Visages de la Guerre raconte l'histoire d'un hôpital qui en apparence est comme les autres, mais pas vraiment. On va découvrir évidemment pourquoi dans ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas déjà, d'aller à la rencontre de cet hôpital et des malades, des soignants aussi ?
Ça me semblait important de pouvoir faire un film sur cette guerre, parce que mine de rien, c'est pas celle qui est la plus en vue aujourd'hui. Elle l'est au travers des logiques gouvernementales, mais elle est pas trop vis-à-vis de l'opinion. En fait, l'opinion est un peu en retrait, un peu inquiète, peut-être un peu dans le déni aussi sur les questions de la guerre en Ukraine. Peut-être parce que c'est assez proche de nous et qu'on a décidé un peu de mettre ça de côté. Donc, j'ai eu à cœur de pouvoir faire un film sur ce conflit, mais l'idée c'était de proposer un regard un peu différent de ce qui pouvait s'inviter de manière un peu spontané, c'est-à-dire de pas chercher à montrer le front, mais plutôt les conséquences de la guerre, c'est-à-dire sur ce qui se passe après la guerre, ou plutôt après, pas la guerre, mais après
les attaques.
Absolument, c'est-à-dire le poids de la blessure, le dégât sur les corps, sur le psychisme des soldats et des civils.
Des soignants, j'imagine aussi, parce que quand des médecins voient arriver par dizaines, centaines des personnes comme ça abîmées, ça doit même psychologiquement pour eux être éprouvant.
Ça l'est, et donc pour pouvoir illustrer ce propos, j'ai accompagné donc une équipe de chirurgiens français en association avec l'Ukraine pour plusieurs années, et chargé de réparer en fait les gueules cassées, tel qu'on peut le dire. Ça nous parle, nous, depuis la Première Guerre mondiale, donc les gueules cassées du front, mais aussi les civils. Donc c'est une équipe de 3 chirurgiens qui se relaient sur une équipe totale d'une quinzaine tous les 2 mois pour aller en Ukraine pour réparer sur place les blessés de guerre.
On s'aperçoit en voyant le documentaire qu'il y a effectivement une reconstruction physique, mais également des dégâts psychologiques très importants. Et on s'en aperçoit effectivement en voyant le documentaire, en voyant les témoins, tout ce qu'on peut observer effectivement dans ce film. Félicie, c'est une évidence d'accompagner Didier sur ce projet.
Alors c'est une évidence parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. J'ai coutume à dire qu'on a une longue conversation dont de temps en temps un fil se tire et devient un film. Voilà. Et ce film-là, il me paraissait important à faire parce que je suis tout à fait dans le même état d'esprit que Didier sur le fait qu'il faut réussir à faire exister en fait cette guerre et faire comprendre qu'elle nous est proche aussi. Et je trouvais que le fait de le faire à travers cette équipe de chirurgiens français qui sont quand même les cadors du genre, il faut le dire, en France, on est très bon sur la chirurgie réparatrice maxillofaciale, qui est vraiment une spécialité très pointue. D'ailleurs, Chloé Berthelus a fait partie des gens qui ont opéré après le Bataclan les blessés par armes de guerre, puisque c'était des kalachnikovs. Il y a ce savoir-faire, il y a cette volonté de coopération sur le long terme, parce que c'est des opérations qui se font de manière récurrente. C'est pas une opération, c'est 5, 10, 15, 20 opérations, puisqu'on répare tout un tas d'éléments qui vont permettre de remettre en ordre les fonctions du visage. Je pense que c'est vraiment dans la lignée du regard humaniste qu'a Didier sur les douleurs contemporaines et en essayant à chaque fois en même temps de ne pas les jeter au visage justement du spectateur. C'est-à-dire qu'il y a dans son travail une réflexion sur l'accompagnement du spectateur à les amener à regarder et à comprendre ses blessés.
Une certaine pudeur hein, aussi oui. Malgré tout qu'on ressent.
Exactement. Le film, il parle de la guerre, il parle des visages de la guerre, c'est dur, mais c'est un film, paradoxalement, il y a de la dignité, il y a de la force, et il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a de l'humour de la part de l'équipe française, parce que on sait bien que les médecins décompressent en faisant aussi quelques blagues, et puis parce que ces Ukrainiens sont absolument incroyables. Ils ont, de manière sans doute culturelle, une façon voilà, de mettre à distance aussi ce qui leur arrive, aussi bien d'ailleurs dans les douleurs physiques que dans les conséquences sociales, concrètes, que vont générer leurs blessures, leurs visages déformés, et puis pas que, parce que nous on s'est focalisé sur cette équipe qui répare les visages, mais dans le centre dont vous parliez au début, en fait c'est un centre où il n'y a que des gens à qui il manque quelque chose, un bras, une jambe, tout le monde, évidemment c'est la norme en fait dans ce centre. Quand la caméra se pose, elle voit passer tous ces gens qui sont des blessés de guerre de manière générale. Et ben une manière pour eux, je pense, de s'en sortir, c'est de faire appel à ce sens de l'humour qui est une résilience très forte. Le film n'est pas là pour donner des leçons, mais c'est quand même une leçon de vie de les voir, quoi. Ça permet aussi de mettre un peu à distance nos propres préoccupations.
Didier, j'imagine qu'en revenant d'un terrain de front comme ça, de voir tout ça, de découvrir tout ça, quand on revient en France, que le tournage est terminé, qu'est-ce que c'est la première chose dont on a besoin quand on a été un peu spectateur derrière la caméra de tout ça?
Oui, c'est pas simple d'être confronté à la souffrance humaine, surtout quand elle est aussi violente et dévastatrice sur les corps, dans les esprits, quand on passe du temps comme ça dans un bloc opératoire, sur des opérations extrêmement délicates. On se protège pendant le film parce qu'il faut garder une bonne distance pour essayer de mieux raconter l'histoire et de mieux traduire les sentiments de ceux qu'on filme. Donc ça, c'est déjà la première chose.
Et le drame, c'est eux qui le vivent en plus, donc c'est compliqué.
Tout à fait. Le plus grand respect qu'on leur doit, c'est justement de se tenir pour mieux illustrer leur réalité. Après, évidemment, on revient avec des choses lourdes et difficiles. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les choses qui m'ont le plus marqué, c'est pas des choses que j'ai filmées. Notamment au cimetière qu'on voit dans le film, cimetière militaire, où on voit en fait les cercueils des soldats avec des drapeaux, les tombes, les couleurs de l'Ukraine. J'ai cette image qui me reste, que je repense souvent, de cette mère avec son fils d'une dizaine d'années. C'était visiblement le père qui était là, face à eux, dans le cercueil, et ce jeune fils qui refusait de prendre la main de sa mère, qui était dans une expression de colère inouïe, de haine même. Et de voir combien la haine se transmet au-delà des générations, ça m'avait profondément remué, en fait, cette image-là. Donc oui, on ramène beaucoup de choses. Après, il faut s'en accommoder. Mais notre position de documentariste, c'est de trouver cette bonne distance pour traduire et respecter la parole d'autrui, pour mieux sensibiliser ceux à qui on s'adresse. On est un peu des intermédiaires. Ça peut paraître un peu un lieu commun de dire ça, mais on a une interface entre une parole émise et une parole entendue. On est là pour aménager en images et en son tout ça pour arriver à toucher les cœurs et les esprits. C'est ça notre mission.
Effectivement, une véritable mission, et c'est aussi une mission de service public de proposer ce genre de programme dans le cadre d'une programmation exceptionnelle. On disait sur France Télévisions, pour les 4 ans de la guerre en Ukraine, vous allez pouvoir découvrir les visages de la guerre. Ça sera mercredi soir à 22h35 sur France 2, un film de Didier Crowe et produit par Félicie Roblin, qu'on a plaisir à retrouver, bien évidemment à chaque fois avec une qualité, en tout cas dans ces films produits, qui est toujours constante. Donc merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait et je vous dis à très bientôt.
Merci Alain.
Merci de votre invitation.
En fait, le principe, c'est toujours le même. On met une vis dans l'os, on met une vis pour fermer la vis, on va ensuite enlever pour glisser dedans un système qui va permettre de porter la prothèse, quoi. Et puis là, il y a le très joli dispositif du docteur Bettoni dans l'oreille. Attends, c'est super beau. Il va être bien, ce monsieur. Ouais. Hein.
Une sourcil est bien symétrique. Hein.
Ouais. Ouais. Donc là, déjà, il a déjà l'œil qui est en place, en fait, dès la toute première intervention. Et surtout, c'est le regard qui a complètement changé. Hein. C'est chouette, les faces.
Vous avez vu, c'est toujours la même chose. On apporte beaucoup de muscles et...
On apporte de la jeunesse. Donc là, on est très content parce qu'on a retrouvé le conduit auditif externe. Et la première chose que nous dit le patient quand on arrive en réa, c'est « j'entends ». Il était très, très content parce qu'il entendait le reste. Il ne se rendait pas bien compte de ce que ça pouvait faire. Mais ça, tout de suite, il a dit « c'est un miracle, j'entends ». Alors, il n'y avait rien de miraculeux. On avait juste réouvert le conduit.
Allez, vous le savez, depuis jeudi dernier, c'est le grand retour de Léo Mattei. Vous avez peut-être découvert le nouveau commissaire Trimoulin. Et oui, il est là avec nous en ligne. Vincent Desania. Bonjour, Vincent.
Bonjour à tous.
Je suis très, très heureux de t'avoir, Vincent. Tu sais comment je suis fan, effectivement, toi et de toute l'équipe qui nous a bercé pendant des années sur le Morning Live. Évidemment, on a eu plusieurs fois l'occasion de te recevoir. Et puis là, eh bien, c'est pour un rôle fantasque, un peu lunaire. Ce commissaire Trimoulin qu'on a découvert jeudi dernier nous fait un peu rire aussi au premier abord. Mais il s'avoue quand même d'une sagacité quand même assez importante aussi. Vous allez voir qu'il a du flair, ce commissaire. C'est le cas de le dire.
Mais oui, c'est quand même un commissaire. C'est le nom veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est un commissaire, donc un responsable. Donc il est pas si perdu que ça.
Comment t'es arrivé dans la série ?
Alors, je suis arrivé dans la série grâce à Jean-Luc Reichmann, qui m'a appelé pour me proposer ce personnage et m'a tout de suite parlé de l'identité, de la couleur de ce personnage, de ce Trimoulin. Et ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite parlé et j'ai trouvé la proposition hyper agréable et hyper intéressante. Donc,
c'est vrai que le personnage te va bien, en tout cas.
Bah merci, c'est super. J'ai adoré les références que Jean-Luc m'a données pour les traits de caractère de ce commissaire Trimoulin. Et oui, ça m'a parlé tout de suite, évidemment. C'est une couleur qui me ressemble. C'est voilà des gestes et une musique qui me ressemble.
Alors, est-ce que...
Et qui me parle.
Ben oui. Est-ce que Jean-Luc et Nathalie n'ont pas failli à leur réputation d'accueil exceptionnel quand il s'agit d'accueillir des petits nouveaux dans l'équipe ?
Ils n'ont pas failli un seul instant. Ça a été hyper agréable. J'avais l'impression de faire partie de l'équipe depuis toujours. L'accueil était très gentil, très serein, hyper agréable, donc tout s'est bien passé.
Alors, dans le double épisode que on va voir jeudi, on va parler de la disparition de trois jeunes enquêteurs du web qui s'intéresseraient à une ancienne affaire. Des guests absolument incroyables, oui. Vanessa Demouy, Yann Sundberg ou encore Marie Henry sont dans ce double épisode. Alors, c'est vrai que tu as dû voir, en tout cas, débouler pendant tout ce tournage de nombreuses personnalités, comme Adil Rami, qu'on verra la semaine prochaine aussi, Marc Ruchman, Hélène Cesaré, Lannick Gautry, qui était la semaine dernière dans les épisodes. Enfin, bref, il y a vraiment du beau monde.
Ah oui, c'est hyper agréable. Alors moi, je suis très déçu parce que je suis le seul à n'avoir rencontré personne. Toutes mes scènes se sont faites au commissariat et malheureusement, aucune de ces guests n'est passée.
Et oui, parce que toi, t'es souvent avec l'équipe du coup. T'es souvent, les scènes sont souvent avec Jean-Luc, Louvia, effectivement, et Gwendal.
Je suis très heureux qu'il y ait toutes ces personnes, ces personnalités. Je suis deg de ne jamais les avoir croisées.
Bon, il va falloir faire sortir le commissaire Trimoulin un peu plus lors de la prochaine saison.
Exactement, voilà. Signer une pétition pour la saison 14, faire sortir le commissaire Trimoulin de son bureau.
Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu t'es bien amusé, mais est-ce qu'il y a une scène particulière qui restera en mémoire sur cette saison?
Oh, j'en ai plein. J'ai mes arrivées en vélo au commissariat qui sont plutôt rigolotes. J'ai mes conversations avec le commandant Mattei qui me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Plein de scènes en tête que j'aime et j'espère évidemment que les téléspectateurs vont aimer. Parce que c'est tellement agréable à faire qu'on a envie que ça plaise et que ça fasse rire et que ça émeuve. Tout est un bon souvenir.
Tu te vois l'incarner pendant plusieurs saisons comme ça?
Avec grand plaisir, vraiment. C'est agréable à faire. Il n'y a aucune raison de dire non merci.
Ah oui, c'est vrai. Alors, t'es vraiment le cas typique, toi, du comédien qui passe du cinéma à la télévision, qui est vraiment un peu partout. Ça, c'est génial de pouvoir faire son métier dans tous les domaines, comme toi, tu peux le faire aujourd'hui.
J'ai l'impression que c'est de cette manière-là qu'il faut l'appréhender. C'est ma personnalité. Je viens de la télé. J'ai eu la chance d'avoir d'avoir pu enchaîner avec le cinéma. J'aime revenir à la télé. Voilà, ça fait partie de mon ADN, donc c'est quelque chose qui me plaît. Et puis la fiction à la télé ou au cinéma, c'est de la fiction, donc voilà, hein, peu importe le média, quand c'est agréable à faire, voilà, je suis là.
Il y a des projets qui arrivent, Vincent, pour toi, 2026
Je pars en tournée théâtrale fin février, dans toute la France, avec une pièce de théâtre qui s'appelle La Veuve Rusée, de Carlo Goldoni, une comédie classique du 18e siècle, voilà, avec une troupe géniale.
Super.
Caterina Murino, Pierre Rochefort, Tom Leb, Vincent Deniard, Sarah Biasini, Thierry Harcourt.
Voilà. Ah oui, il y a du beau monde.
Sur scène, il y a du beau monde et c'est une pièce géniale à faire. Voilà.
Et pour le cinéma, il y a des choses qui arrivent aussi.
Mercredi est sorti Le Marsupilami de Philippe Lachaud.
Oui.
Et je fais une petite apparition dedans.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et puis sinon.
T'as une scène dans une voiture.
Dans, exactement.
On n'en dira pas voilà. plus.
Ouais. Ouais. Et je serai aussi dans une apparition dans le prochain film de Tarek Boudali de la bande à Fifi.
Excellent.
Et puis, en écriture aussi pour de mon côté pour des projets personnels. Voilà.
Bon, il n'y avait pas un Fatal 2 qui était en préparation aussi.
Si, c'est en écriture.
Ah bon, on a hâte voilà. en tout cas de vous retrouver aussi tous ensemble, peut-être avec
oui.
avec Mickaël et Benjamin,
oh,
évidemment,
oui.
on vous adore tous les trois aussi.
Oh, oui.
En attendant,
oh,
on
cool.
te retrouve dans Léo Mattei, la saison 13 inédite a débarqué déjà depuis jeudi dernier. Vous allez pouvoir suivre les deux épisodes suivants jeudi soir à 21h10 sur TF1 avec un très joli casting dont notre ami Vincent Dezania qu'on vous invite à découvrir.
Exactement.
Si vous l'avez pas encore découvert, ça tombe bien, les deux premiers épisodes sont en replay sur TF1+. Merci beaucoup Vincent.
Merci à vous, c'était très agréable.
On te dit à bientôt.
Salut.
Brigade des mineurs, c'est la police.
On a une série de homejacking depuis 3 mois. Même mode opératoire, 3 types masqués. Ils piquent tout ce qu'ils trouvent et ils repartent.
À part que là, ils repartent avec une enfant.
Monsieur, vous devez pas manger ce chocolat, il vient d'une pièce à... Excusez-moi commissaire, je vous avais pas reconnu.
Votre nouvelle collègue, Justine.
Je la trouve dynamique, bosseuse, cathartique.
Cathartique. On va tout faire pour retrouver votre fille.
Mon plan est sûr.
Quand il s'agit d'enfants, je lâche jamais rien.
C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas?
Ça va pas le faire.
On fait comme tu le sens. Moi, je veux rien forcer.
Il y a une gamine qui a disparu. Elle est où? Vous prenez aucun risque, hein, surtout.
Sors! Sors!
Et on n'est pas dans un jeu, là.
Léo Mattei revient pour une nouvelle saison. Jeudi à 21h10 sur TF1.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Un jour, un message.
On s'est rencontrés là par hasard.
Un jour, un espoir.
On a écrit nos rêves pour y croire.
On se souvient du soutien quand on y croyait le moins. Quand on avait des chansons plein la tête.
Quand ça nous semblait si loin. Quand on se répétait un jour peut-être. On voit dans vos regards la lumière briller. On a du mal à croire que c'est.
Oh,
chaque doute, chaque larme sur la route. Même quand tout nous semblait flou, on restait droit devant vous. On avançait coûte que coûte, parce que ça valait le coup. Parce qu'on se voyait déjà tous ensemble.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Chute on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chute on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler spectacle aujourd'hui avec Florian Lex qui est notre invité aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être avec son rôle de Max dans Scène de ménage. Et Florian est en tournée partout en France avec son spectacle Imparfait. Bonjour Florian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va déjà commencer par effectivement ce spectacle qui va passer partout, puisqu'il sera dès ce 18 février, ça sera à Toulouse, ça sera à La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques le 19, et puis le 20 février, en fin de semaine, ça sera à Biarritz, à la Gare du Midi, j'imagine. Et puis ça passera aussi à La Rochelle le 14 mars 2026, à Bordeaux le 24 avril, et ça passera également à Nantes en octobre prochain. C'est une tournée incroyable cette année, il va pas y avoir le temps de chômer.
Non, il n'y a pas trop le temps, et d'ailleurs il y a des dates qui sont complètes déjà des mois à l'avance, notamment à La Rochelle, donc on a rajouté une date à La Rochelle le 12 septembre, et j'enchaîne beaucoup de dates, donc c'est vraiment cool, ouais.
Alors Florian, comment est venue cette envie de monter sur scène, de faire rire, de faire de la comédie? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà là tout petit?
Ouais, j'ai commencé à monter sur scène à l'âge de 3-4 ans. J'ai commencé le théâtre hyper tôt. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté après parce qu'il fallait que je fasse mes études. Et à la fin de mes études, je me suis rendu compte que le théâtre me manquait beaucoup trop. Donc j'ai tout arrêté et je me suis consacré au milieu du théâtre professionnellement.
Alors, c'est vrai que Scène de ménage, c'est une série à sketch. Ça fait très théâtral aussi. C'est bien dans l'ADN du coup du personnage là.
Ouais, carrément. Oui, Scène de ménage, c'est trop bien parce que c'est un peu comme mes formats de vidéo sur mes réseaux sociaux. C'est des sketchs qui durent une petite minute, donc c'est vraiment le même format, sauf que on est plusieurs et avec des beaux décors. Et non, c'est vraiment cool, ouais.
Et tu vas reprendre des tournages très bientôt. Hein.
C'est ça, ouais. J'ai encore d'autres épisodes à tourner là.
Bon, la tournée Imparfait. Raconte-nous un petit peu, sans trop nous en dire, ce qu'on va pouvoir voir sur scène. C'est quoi Florian Lex sur scène pour ceux qui te connaissent pas?
Alors Florian Lex sur scène, c'est un humoriste qui aime faire le show. C'est un gros spectacle avec beaucoup de lumière, des danseuses, de la vidéo, du chant, de la musique, des personnages, du stand-up. Il y a vraiment de tout. C'est un spectacle qui dure presque 2 heures. Donc c'est vraiment un très très gros spectacle.
Ah oui, effectivement. Ouais. 2 heures de show. Ouais, ouais. Tu n'es pas avare, quoi.
Non, je me donne beaucoup sur scène, donc parce que c'est un plaisir et j'ai envie de donner beaucoup au public qui vient de me voir, donc c'est vraiment un gros truc, ouais.
La notoriété, c'est bâti sur quoi, mine de rien, dans ta carrière? Quels ont été les déclics qui ont fait que ça a explosé? Aujourd'hui, t'as plus de 500 000 abonnés sur Insta, par exemple.
Ouais, c'est tout simplement les vidéos. Hein. Je faisais des vidéos avant le confinement et ça avait pas trop marché. Et j'ai tout repris à zéro pendant le confinement. Et là, ça a tout de suite buzzé. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et voilà.
C'est quoi qui a fait la différence pour toi après le confinement?
Les gens avaient rien à faire en fait, donc ils étaient sur leur téléphone. Donc tout de suite une vidéo a buzzé tout de suite parce qu'en fait les gens la voyaient tout de suite, ils avaient que ça à faire, donc ça prenait tout de suite.
Comment tu vis tout ça aujourd'hui?
Bien, il y a des jours.
Comme un rêve un peu?
Oui. Après la notoriété, c'est, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais je vais pas me plaindre évidemment. Mais disons que tout n'est pas toujours rose, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir faire toutes ces salles, toutes ces dates en France, partout ailleurs, dans d'autres pays. Donc c'est vraiment un kiff total, ouais.
Imparfait. Pourquoi ce titre ?
Alors, j'ai choisi imparfait au pluriel parce que je parle des Français dedans. Parce que, on est tous imparfaits. On dit souvent que la nature, on renvoie toujours un idéal de perfection, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les pubs, avec le corps parfait, la famille parfaite, le job parfait. Alors qu'il suffit de se retourner deux secondes sur son entourage pour voir qu'on est loin de la perfection et que la perfection n'existe pas. Et c'est tous ces paradoxes que j'ai voulu mettre dans le spectacle.
Comment t'as vécu tes premières salles pleines ? Tu t'es dit quoi à ce moment-là ?
J'étais excité et stressé en même temps, mais plus excité quand même, parce que c'est toujours un kiff monumental de jouer devant une grosse salle pleine et de voir que les gens ont envie de me voir, c'est toujours un énorme plaisir, même si ça paraît parfois surréaliste. Il y a des jours où ça paraît surréaliste quand même.
Ça te paraît surréaliste, toi, aujourd'hui, encore ?
Ouais, bien sûr, oui, parce que c'est, en fait, quand on prend du recul, on se dit, il y a des gens qui payent pour venir me voir, pour que je les fasse rire. Ouais, sorti du contexte, ça peut être perturbant, en fait.
Tu as une tournée cette année avec plus de 60 dates, c'est totalement hallucinant. Est-ce qu'on est obligé de se mettre en place une certaine hygiène de vie pour tenir justement la distance, pour tenir tout ça ?
Oui, carrément. Après, moi, j'ai une hygiène de vie. J'essaye d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Je fais beaucoup de sport. J'essaye de manger équilibré. Je bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne me drogue pas. Donc, j'essaye d'être le plus parfait possible, même si j'aime beaucoup la raclette.
Oui, il paraît, ça te colle à la peau, ça.
Ouais, ça me colle à la peau.
Ça te colle à l'assiette, plutôt.
Ouais. Mais non, j'aime vraiment manger, donc je me rattrape sur tout ça, sur la nourriture, ouais.
T'es capable de te faire une raclette en plein été, quoi.
Ah, je le fais tous les étés, d'ailleurs. Je le fais tous les étés. Au mois d'août, je me fais toujours une bonne raclette, ouais.
T'étais de ceux qui ont fait le réveillon de Noël avec une raclette, justement, ça a été la mode, à Noël dernier.
Ouais, exactement, j'ai fait une raclette à Noël, ouais.
Bon, en tout cas, on va pas manquer de te suivre. Moi, j'ai envie de savoir aussi un peu tes rêves, tes envies en matière de comédie aussi, parce que voilà, il y a Scène de ménage qui est vraiment de la comédie à sketch, mais est-ce que t'as envie d'avoir peut-être un jour qu'on te propose des rôles un peu plus profonds, ou des plus grands rôles?
Oui, je crois que le mot profond, c'est tout à fait le terme. J'aimerais bien un jour jouer dans un film avec un rôle, je dirais dramatique, mais un peu plus sérieux que clownesque. Et j'aimerais bien, ouais, vraiment jouer ce genre de personnage-là un jour dans des films ou séries.
On vous a donné envie, j'espère, d'aller voir Florian. Son spectacle Imparfait va se jouer un peu partout en France. Et justement, ça tombe bien puisque cette semaine, eh bien, dès mercredi, vous le retrouverez à Toulouse. Vous le retrouverez également jeudi à la Reims dans les Pyrénées-Atlantiques et vendredi à Biarritz à la gare du Midi. Il sera de passage aussi le 14 mars à La Rochelle, mais aussi du côté de Bordeaux le 24 avril. Et puis ça passera aussi du côté de Nantes le 11 octobre prochain, le 12 septembre. Il y a une deuxième date à La Rochelle qui a été ouverte face au carton annoncé.
Exactement. J'ai hâte de venir dans toutes ces villes.
Bon, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Florian.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Florian. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez aussi qu'on vous fasse le CIF ? Mais vu que c'était compris dans le prix, j'ai dit oui. C'est que 15 jours après, les poils, ils repoussent. Ah, j'avais l'impression d'avoir un paquet de chips dans le slip.
Allez, notre invité aujourd'hui, c'est Titoff qui va venir nous parler de son spectacle Showbiz qui tourne partout en France. Et ça tombe bien, il est avec nous. Bonjour Titoff.
Et salut, comment ça va ?
Ça fait plaisir de te retrouver. On s'était pas croisé depuis quelques années, depuis le Vive la Colo tourné en Charente-Maritime. Et là, bien, tu es en tournée un peu partout. On va citer déjà quelques dates puisque tu seras le 21 février à la salle Jean Gabin de Royan. On te retrouvera également à Toulouse au théâtre Les 3T. Ça sera le 11 mars prochain. On te retrouvera également au Palais des Congrès du Cap d'Agde le 26 avril. Et on te retrouvera à La Roche-Posay au Casino Partouche le 21 mai. Showbiz cartonne partout. C'est chouette.
Eh ben, ça se passe super bien. Vraiment, j'ai un accueil extraordinaire. Donc ça fait chaud au corps. Et puis ça fait un petit moment quand même que j'étais pas sur les routes. Donc voilà, je retrouve. Parfois il y a des endroits parce que vraiment j'ai quand même depuis. Je crois que ma première tournée elle était en 2000. D'ailleurs pour la première date, j'avais une super équipe. Hein, c'était mon frère et mon ami d'enfance. On était en autoprod, on était avec une grosse prod, mais aussi une autoprod. Et pour ma première date de tournée, vraie première date de tournée, il y avait, je crois, 1000 personnes qui m'attendaient. En fait, on est arrivé à Chambéry, sauf que je jouais à Annecy.
C'est pas la même.
Ça, c'est vraiment pas... Donc là, bon, ça m'est plus arrivé depuis. Mais non, j'ai un super accueil. Puis c'est vrai que parfois, des fois, j'arrive dans des théâtres et on me dit, tu as déjà joué dans ce théâtre? Je dis non, je pense pas. Et puis je me balade dans les coulisses et du coup, je vois une affiche de moi avec 20 ans de moins. Donc voilà, non, mais il y a vraiment un super accueil. Donc je suis ravi.
25 ans de scène, tu te rends compte?
Eh oui, ça passe vite, hein. Bon, et il faut dire que je fais partie des artistes, des humoristes qui ont eu la chance de démarrer très tôt.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
À l'époque, ça, depuis, il y a eu Caladam, tout ça, puis bon, Jamel. Mais sinon, à l'époque, à part Pierre Palmade, c'est vrai que les carrières ont explosé après 35 ans, même des fois 40 ans. Donc moi, j'avais, je crois, 26 ans. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait longtemps que je suis là.
C'est combien de spectacles, Showbiz?
4, 5, en solo, 5e ou 6e. Et entre-temps, j'avais fait un duo, ça s'appelait Amoureux, c'était sur la différence d'âge dans le couple. J'avais beaucoup de potes de la cinquantaine qui se souvenaient avec des filles de 20, 25 ans et après ils avaient du mal à suivre. Je trouvais ça drôle et du coup, j'ai un super accueil. C'est Patrick Timsit qui a fait la mise en scène de ce duo. Et voilà, c'est après. Et après, bon, on a été un peu contraints d'arrêter la tournée parce que il y a eu un petit virus qui est passé par là. Voilà, ma dernière date, je me rappelle, j'étais à Porto Vecchio et puis on s'est mis à couper du bois et à faire des tartes, des tourtes à la maison.
On a tous vécu ce moment effectivement très particulier. Showbiz, est-ce qu'on reste dans la lignée de ce que les gens ont pu déjà venir voir, en tout cas, Titoff sur scène peut-être?
Quand on commence, on n'imagine pas qu'après, voilà, la carrière va durer, perdurer, et c'est vrai qu'il faut quand même se renouveler. Et moi, comme il y a beaucoup de spectacles, vraiment, c'est très bien, il y a le choix, il y a vraiment plein d'humoristes, des jeunes humoristes, vraiment, c'est devenu vraiment très très professionnel avec les comédie clubs. Moi, je me suis dit, il faut être sincère, il faut trouver quand même un sujet, et puis j'ai dit, je vais faire comme j'ai toujours fait, parler de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Donc voilà, quand j'étais tout jeune, j'avais ce personnage qui mangeait des chips devant la télé, qui se faisait réveiller par la fameuse émission Chasse et Pêche. Et là, j'ai dit, tiens, c'est vrai que souvent je racontais des histoires qui me sont réellement arrivées, lors de dîner ou de repas, et puis les gens, tout le monde me dit, putain, il faut que tu le racontes, sur scène. Donc c'est là qu'est venue l'idée de Showbiz. Donc je raconte mes débuts avec Jean-Luc Delarue, qui était producteur télé, mais aussi producteur de spectacle, avec tout ce que ça comporte, l'image qu'il avait de gendre idéal, de premier de la classe, et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça.
C'était un peu plus sulfureux.
Voilà. Je parle aussi de ma rencontre avec Thierry Ardisson, quand il était venu voir mon spectacle, et ensuite, j'étais récurrent dans l'émission la plus branchée de Tout le monde en parle, ma rencontre avec Robert De Niro, enfin, je parle de tout ça, puis ça me permet aussi, c'est du vrai stand-up, j'ai choisi que des histoires qui sont vraiment drôles. Parce que sinon j'en ai plein d'histoires, mais j'ai vraiment c'est un vrai stand-up, c'est un vrai show de d'humour. Voilà, ça me permet aussi de parler la différence qu'il y avait entre la promo de l'époque avec la télé et maintenant où c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc voilà, enfin je fais plein de digressions. Je sais pas, que c'est pas le spectacle de Michel Drucker, j'ai rien contre lui, mais on est vraiment sûr d'un vrai stand-up.
Alors justement, toi qui es sociétaire d'une célèbre émission de radio, est-ce que ça aide quand on écrit des spectacles, quand on met en scène des spectacles, est-ce qu'on est un peu plus réactif ou plus fin dans l'écriture encore quand on sait que sur une émission de radio comme celle que tu fais, il faut tout le temps être au taquet, il faut tout le temps être réactif, il faut tout le temps rebondir sur les punchlines?
Alors moi, je me suis surtout nourri, parce que c'est de la pure impro, hein. Non, moi je me suis surtout nourri des gens avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore. Moi j'avais une amitié, c'était carrément mon parrain de métier, le fameux Pierre Bénichou, Pedro, le roi du tango. C'est vrai qu'à ses côtés j'ai beaucoup appris, parce qu'il avait une telle finesse, un tel état d'esprit. Il y avait Fabrice Eboué, qui a une répartie incroyable, et puis voilà, donc Laurent aussi, avec sa façon de travailler, sa rigueur, Laurent Riquier. Donc j'ai plus appris de ça, puis et c'est un vrai exercice. C'est vrai qu'il y a une époque, moi j'étais quasiment tous les jours. C'est un vrai exercice de une gymnastique, on va dire, de d'être vif et de voilà. Après moi, quand j'écris vraiment, là déjà la plupart des histoires que j'ai choisies, que j'ai testées, j'ai fait vraiment une pré-tournée avec beaucoup de dates. C'est une période que j'adore, voilà, parce qu'on sait presque, les sketchs se construisent presque en direct avec le public. C'est selon la réaction, c'est ça qui est magique dans ce métier, c'est que on a toujours une idée quand même, mais on sait jamais à quel point ça va faire rire
La partie rodage est essentielle.
Ah ouais, oui, oui, c'est. Moi, j'adore ce passage-là. Puis c'est là où souvent, quand bon, bah, moi, c'est comme mon petit frère Redouane Bougaraban a fait une marque de fabrique et ses fameuses impro. Lui, carrément, il fait un spectacle. Moi, je l'ai vu hein, au stade de Vélodrome à Marseille. Bon, il y avait plein de chanteurs, plein de rappeurs, mais bon, mec.
T'es presque en terrain conquis en plus là-bas.
Oui, oui, quand même. Il faut le faire. C'est quand même un sacré exercice qu'il fait. Hein. Il y en a d'autres qui font ça aussi. C'est quasiment uniquement de l'impro. Moi, depuis le début, j'ai toujours eu des phases un peu d'interaction, des happenings avec le public. Ça dépend de soir à l'autre. Donc, ça se fait que la radio, ça aide pour la répartie, l'habitude d'improviser. C'est sûr que c'est un super exercice.
Dernière question, les projets pour les Titoff comédiens. À la télé, au cinéma, au théâtre, est-ce que tu as des choses qui vont arriver bientôt?
Ben là, déjà, je suis bien occupé avec mon spectacle Showbiz parce que vraiment, il y a beaucoup de dates qui arrivent. Et puis, ben, toujours aussi la radio. J'ai écrit une série, j'ai écrit aussi un film qui sont en train d'être proposés à des distributeurs, tout ça. Donc, la prochaine fois, on verra quand on voit si le projet on aboutit ou pas.
Bon, mais on sera là, en tout cas, Titoff. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es de passage avec Showbiz. Ça sera le 21 février au théâtre Jean Gabin de Royan. Tu seras également à Toulouse au théâtre Les 3T. Ça sera le 11 mars prochain, Palais des Congrès du Cap d'Agde, le 26 avril. Et tu seras également à La Roche-Posay dans la Vienne, au Casino Partouche, le 21 mai. Ça passera également par Pornic, également par Amé, dans le Loiret, vers Vannes, Brest. Enfin, bref, ça tourne partout. Vous avez toutes les dates.
L'Olympia.
Le 5 mai, l'Olympia.
C'est toujours là aussi, mythique.
Là, je vais pas dévoiler, mais j'ai pas mal d'histoires parce que voilà, la première fois que j'ai fait l'Olympia, c'était épique, comme tu dis. C'était un vrai plaisir, en tout cas.
Toutes les dates sur l'Insta et sur le Facebook, Titoff. N'hésitez pas.
Depuis Villa Colo, c'est incroyable.
On n'a pas changé.
On n'a pas changé, hein.
Merci, mon Titoff. À bientôt.
C'est un plaisir, merci.
Simon, tu sais danser. Putain, j'ai l'impression d'être un déménageur breton. Mais t'es costaud, on va faire des bons portés, on va faire plein de portées. J'ai dit, on m'a pris pour un labrador ou quoi? Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, on se mouchait avec des mouchoirs en tissu. Et nos initiales dessus. Et je peux te dire, on se mouchait pas qu'une seule fois. On s'en foutait, j'en fumais dans les bars, les restaurants, fumais partout dans les voitures. Et si tu remontes encore en arrière, une fois j'ai vu un film d'époque en noir et blanc, le mec, carrément, il fumait dans les hôpitaux. Ah oh, ouais, carrément. Le mec, il arrive comme ça, dans l'hôpital, hein. Derrière, là, faut opérer.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et ne ratez pas Chute, on écoute la télé. Lundi prochain, on aura le grand plaisir de parler du film Chers parents avec Emmanuel et Armel Patron, André Dussolier et Pauline Clément de la Comédie française. Et puis ça sera également une spéciale Marie au premier regard avec Estelle Dossin qui sera notre invitée.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.